Le joueur, chapitre 15. Elle me regardait fixement, sans bouger. « J'ai gagné 200 000 francs !» prononçai-je en jetant les derniers rouleaux sur la table. Le tas de billets et les pièces couvraient la table. Je ne pouvais les quitter des yeux. J'en oubliais Paulina elle-même. J'essayais de les mettre en ordre, puis je mêlais tout. Puis je me mettais à marcher à travers la chambre. Rêveur. Puis je recommençais à compter. Tout à coup, je me jetai vers la porte que je fermais à double tour et, allant me planter devant ma petite valise, « Si j'enfermais tout ça là-dedans jusqu'à demain ?»« Jusqu'à demain » répétai-je en me tournant vers Paulina. Je m'étais souvenu d'elle en cet instant même. Paulina restait toujours immobile, me suivant des yeux. Étrange était l'expression de son visage. Une expression désagréable. Il y avait de la haine dans son regard. Je m'approchai d'elle. « Paulina, lui dis-je, voici 25 000 florins, plus de 50 000 francs. Jetez-les-lui demain à la figure. » Elle ne me répondit pas. « Si vous voulez, je les lui porterai moi-même, demain, de bonne heure. Voulez-vous ? » Elle se mit à rire, et elle rit longtemps. Je la regardais avec stupeur, avec douleur. C'était le rire qu'elle affectait à l'ordinaire quand je lui faisais mes déclarations les plus passionnées. Elle cessa enfin, devint morne et me regarda en dessous. « Je ne veux pas de votre argent, » dit-elle avec mépris. « Pourquoi ? Pourquoi donc, Paulina ? » « Je ne veux rien pour rien. » « Je vous l'offre en ami. » « Je vous offre aussi ma vie. » Elle me jeta un long et perçant regard, comme si elle eût voulu lire au fond de mes pensées. « Vous payez bien, » reprit-elle en souriant. « La maîtresse de Grillet ne vaut pas 50 000 francs. »« Paulina, pouvez-vous me parler ainsi ? Suis-je donc un de Grillet ? » « Je vous hais, oui, oui, je ne vous aime pas plus que de Grillet. » s'écria-t-elle, les yeux enflammés. Elle cacha ensuite son visage dans ses mains et fut prise d'une crise de nerfs. Je me précipitai vers elle. Je compris que pendant mon absence, quelque chose d'anormal avait dû lui arriver. Elle était comme folle. « Achète-moi, veux-tu ? Veux-tu ? Pour 50 000 francs, comme de Grillet » criait-elle d'une voix entrecoupée de sanglots. Je la pris dans mes bras, je baisai ses mains, ses pieds, j'étais agenouillée devant elle. La crise passa. Revenue à elle, elle posa ses deux mains sur mes épaules et m'examina avec attention. Elle m'écoutait, mais visiblement, elle n'entendait pas ce que je lui disais. Son visage était devenu soucieux. Je craignais pour elle. Il me semblait que son intelligence se troublait. Tantôt elle m'attirait doucement vers elle et me souriait avec confiance, tantôt elle me repoussait et de nouveau m'examinait d'un air désespéré. Tout à coup, elle m'étreignit. « Mais tu m'aimes ? Tu m'aimes ? » demandait-elle. « Tu as donc voulu te battre avec le baron pour moi ?» Elle s'interrompit et se mit à rire, comme si une idée comique lui avait passé par la tête. Elle pleurait et riait à la fois. Que faire ? Je me sentais venir la fièvre. Je ne comprenais plus ce qu'elle me disait. C'est une sorte de délire, comme si elle eût voulu me raconter tout en très peu de mots, un délire interrompu de folle gaieté qui m'épouvantait. « Non, non, tu es ma joie » répétait-elle. « Tu m'es fidèle, toi !» Et elle posait de nouveau ses mains sur mes épaules, me regardant au fond des yeux, et répétait « Tu m'aimes ! Tu m'aimes ! Tu m'aimeras ? » Je ne la quittais pas des yeux. Je ne l'avais jamais vue dans un tel accès d'amour. C'était du délire, il est vrai, mais elle souriait malicieusement à mon regard passionné. Tout à coup, à brûle-pourpoint, elle se mit à parler de Monsieur Ashley. Elle répétait sans cesse « Qu'il attende ! Qu'il attende !» et me demandait si je savais qu'il était là sous la fenêtre. « Oui, oui, sous la fenêtre. Ouvre, regarde. Il y est ?» Elle me poussait vers la fenêtre, mais aussitôt que je faisais un mouvement pour me lever, Elle éclatait de rire et recommençait à m'étreindre. « Nous partirons demain !» dit-elle tout à coup. Et elle resta songeuse. « Qu'en penses-tu ? Atteindrons-nous la babouchka ? Qu'en penses-tu ? Je crois que nous la trouverons à Berlin. Que crois-tu qu'elle dise en nous voyant ? Et monsieur Ashley ? Ce n'est pas lui qui sauterait du haut du Schlagenberg. Qu'en penses-tu ? » Elle se mit à rire. « Écoute, sais-tu où il ira l'été prochain ? Au pôle Nord, pour des recherches scientifiques. Et il me proposait de l'accompagner. Il dit que nous autres Russes, nous ne savons rien par nous-mêmes, que nous ne sommes capables de rien et que nous devons tout aux Européens. Mais il est très bon. Il excuse le général. Il dit que Blanche, la passion, enfin, je ne sais pas moi-même, le pauvre, je le plains. Écoute, comment tueras-tu de griller ? As-tu pensé que je te laisserais te battre avec lui ? Mais tu ne tueras personne, pas même le baron. Oh, que tu étais drôle avec le baron ! Je vous regardais tous les deux. Comme tu étais ridicule ! C'est que tu ne voulais pas y aller. Il a fallu pourtant. Ah, que j'ai ri alors ! Et tout en riant encore, elle se mit de nouveau à m'embrasser, à me serrer dans ses bras, reprise d'une crise de tendresse. Je ne pensais plus à rien. Je n'entendais plus rien. C'est alors que la tête me tourna. Il devait être 7 heures du matin quand je revins à moi. Le soleil éclairait la chambre. Paulina était assise près de moi et me regardait étrangement, se détournant parfois pour regarder la table et l'argent. J'avais mal à la tête. Je voulus prendre la main de Paulina, mais elle me repoussa et se leva. Elle s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit et resta appuyée à la croisée pendant 3 minutes. Je me demandais, que va-t-il arriver ? Comment tout cela finira-t-il ? Tout à coup, elle revint à la table et, me regardant avec une haine extraordinaire, me dit, les lèvres tremblantes de colère, « Eh bien, rends-moi maintenant mes 50 000 francs !»« Paulina, encore ? Encore ? Tu as peut-être réfléchi ? Tu les regrettes déjà ?» Les 25 000 florins étaient encore en tas sur la table. Je les pris et les lui remis. « Et ils sont bien à moi, n'est-ce pas ? » me demanda-t-elle avec une physionomie méchante. « Mais ils étaient à toi dès que je les eus. Eh bien, les voilà, tes 50 000 francs !» Elle leva la main, me jeta avec force les liasses de billets en plein visage et sortit en courant. Je sais qu'elle était en ce moment comme folle, mais je ne puis comprendre cet accès de folie. Il est vrai que maintenant encore, 1 mois après cette soirée, elle n'est pas guérie. Qu'est-ce qui l'avait mise en cet état ? Était-ce le regret d'être venue à moi ? Lui ai-je laissé voir trop de vanité de ce bonheur ? A-t-elle cru que je voulais, comme de Griller, me délivrer d'elle en lui donnant 50 000 francs ? Il n'en était rien, certes. Je pense que son amour-propre était pour beaucoup dans tout cela. C'est cet amour-propre qui la dissuada de me croire. Elle m'offensait sans se rendre exactement compte de son offense. Elle s'est vengée de Degrier sur moi. Il est vrai que tout cela n'était que l'effet du délire et que je n'aurais pas dû l'oublier. Peut-être ne me pardonnera-t-elle pas de l'avoir oublié maintenant. Mais alors ? Alors ? Son délire ne lui enlevait donc pas la conscience de ses actes ? Elle savait donc ce qu'elle faisait en venant chez moi avec la lettre de Degrier ? Je ramassai tant bien que mal tous les billets et le tas d'or. Je mis le tout dans mon lit, sous mon matelas, et 10 minutes après le départ de Paulina, je sortis. J'étais convaincue qu'elle était rentrée chez elle. Et je voulais m'introduire furtivement chez eux et demander à la bonne comment allait la Barishnia. Quel ne fut pas mon étonnement quand j'appris de la bonne que Paulina n'était pas encore rentrée et que la bonne elle-même était sur le point de venir la chercher chez moi. « À l'instant même, lui dis-je, à l'instant même elle vient de sortir de chez moi, ou plutôt il y a 10 minutes. Où peut-elle être ?» La bonne me regarda sévèrement. Cependant, on ne parlait dans tout l'hôtel que de Paulina. on se chuchotait chez le majordome que la Fräulein était sortie dès 6 heures du matin de l'hôtel et qu'elle avait couru nu-tête du côté de l'hôtel d'Angleterre. On savait donc qu'elle avait passé la nuit dans ma chambre. Du reste, les cancans sur la famille du général ne tarissaient pas. On savait le général presque fou. On se disait qu'il remplissait l'hôtel de ses larmes. On disait aussi que la babouchka, sa mère, était venue exprès de Russie pour l'empêcher d'épouser Mademoiselle de Comminges, qu'elle l'avait déshérité parce qu'il n'avait pas voulu céder et qu'elle avait perdu tout son argent exprès à la roulette. « Thiès Russen !» répétait le majordome avec indignation en hochant la tête. D'autres riaient. Le majordome préparait sa note. On savait aussi mon gain de la veille. Karl, le domestique de mon étage, me félicita le premier. Mais tout cela m'était égal. Je me mis à courir vers l'hôtel d'Angleterre. Il était trop tôt. Monsieur Ashley ne recevait personne. Quand on lui fit savoir qui le demandait, il sortit dans le corridor, vint silencieusement à ma rencontre et fixa sur moi son regard lourd, attendant ce que j'avais à lui dire. Je lui parlai aussitôt de Paulina. « Elle est malade, » répondit-il sans me regarder en face. « Elle est donc réellement chez vous ?»« Oui, oui, chez moi. »« Mais comment? Vous avez l'intention de la garder chez vous ?»« Oui, oui, j'y suis disposée. » « Monsieur Ashley, mais c'est un scandale. Cela ne se peut pas. De plus, elle est très malade. Vous avez dû vous en apercevoir. »« Oui, oui, je l'ai vue. Je vous ai déjà dit qu'elle est malade. Si elle n'était pas malade, elle n'aurait pas passé la nuit chez vous. »« Vous savez donc aussi cela. »« Je le sais. Elle devait venir hier chez moi. Je l'aurais conduite chez ma parente, mais elle était malade. Elle s'est trompée, et c'est pourquoi elle est allée chez vous. »
« Voyez-vous cela ?
Eh bien, je vous félicite, monsieur Ashley. Vous me donnez même une idée. N'est-ce pas vous qui avez passé la nuit sous ma fenêtre ? Miss Paulina m'a forcé la nuit à ouvrir la fenêtre pour voir si vous n'étiez pas là. Elle riait beaucoup.
« Vraiment ?
Non, je n'étais pas sous la fenêtre. Je l'attendais dans votre corridor en me promenant.
Mais il faut la soigner, monsieur Ashley. »
« Oh oui, j'ai déjà fait venir un médecin. Et si elle meurt, c'est vous qui me rendrez compte de sa mort. »
Je restai muet de stupéfaction.
« Permettez, monsieur Ashley, que dites-vous ? Est-il vrai que vous avez gagné hier 200 000 thalers ?
Pas tant, 100 000 florins.
Vraiment ? Alors prenez le train de ce matin et partez pour Paris.
Pourquoi ?
« Tous les Russes ne vont-ils pas à Paris dès qu'ils ont de l'argent ?»
dit M. Ashley du ton d'un homme qui répète une phrase apprise par cœur.
« Mais que ferais-je à Paris maintenant, M. Ashley ? Je l'aime, vous le savez déjà. »
« Vraiment, je suis sûr que vous vous trompez. D'ailleurs, si vous restez ici, vous perdrez certainement tout ce que vous avez gagné et vous n'aurez plus de quoi aller à Paris.
Mais adieu. » Je suis convaincu que vous partirez aujourd'hui.
Bon, adieu. Du reste, je n'irai pas à Paris.
Réfléchissez, monsieur Ashley, à ce qui va nécessairement se passer chez le général. Car, évidemment, cette aventure avec Miss Paulina... Mais ça va être la fable de toute la ville.
Oui, la fable de toute la ville. Quant au général, je crois qu'il a d'autres soucis. De plus, Miss Paulina a le droit d'aller où bon lui semble. Quant à cette famille, il est permis de penser qu'elle est tout à fait dissoute.
Je partis en souriant, à part moi, de l'assurance qu'avait cet Anglais de mon prochain départ pour Paris.
Pourtant, il veut me tuer en duel si Paulina meurt.
Quelle histoire !
Je plaignais Paulina, mais je dois convenir que dès la veille, dès le moment où je m'étais assis à la table de jeu, mon amour avait été relégué au second plan. Je vois cela maintenant. Mais alors, les choses étaient loin d'être aussi claires. Suis-je donc vraiment un joueur ? Aimais-je donc si étrangement Paulina ? Non, je le jure par Dieu, je l'aimais sincèrement. Je l'aime encore. Mais... » Ici se place la plus singulière, la plus drôle de mes aventures. Je courais chez le général quand une porte voisine de la sienne s'ouvrit et quelqu'un m'appela. C'était Madame Veuve Comminges qui m'appelait sur l'ordre de Mademoiselle Blanche. J'entrai chez Mademoiselle Blanche. Son appartement se composait de deux pièces. Je l'entendis rire dans sa chambre à coucher. Elle se levait. « Ah, c'est lui. Viens donc, Bêta. Est-il vrai que tu as gagné une montagne d'or et d'argent ? J'aimerais mieux l'or. »« Oui, j'ai gagné, » répondis-je en riant. « Combien ? 100 000 florins. » « Bibi, comme tu es bête, mais viens donc ici, je n'entends rien. Nous ferons bonbons, n'est-ce pas ?» J'entrai dans la chambre. Elle était vautrée sous sa couverture de satin rose, d'où sortaient ses épaules dorées, fermes, magnifiques, de ces épaules qu'on voit seulement en rêve, et sur lesquelles s'entr'ouvrait une chemise de fine dentelle, ce qui allait fort bien à son teint chaud. « Mon fils, as-tu du cœur ? » s'écria-t-elle en m'apercevant et en riant de plus belle. Sa gaieté semblait même sincère. « Tout autre que... » commençai-je en parodiant Corneille. « Vois-tu, vois-tu. D'abord, trouve-moi mes bas et aide-moi à les mettre. Ensuite, si tu n'es pas trop bête, je t'emmène à Paris. Tu sais que je pars à l'instant. » « À l'instant ? » « Dans une demi-heure. » En effet, les paquets étaient faits, les malles étaient bouclées, le café servi depuis longtemps. « Eh bien, veux-tu ? Tu verras Paris. Dis donc, qu'est-ce que c'est un Uchitel ? Tu étais bien bête quand tu étais Uchitel. Où sont mes bas ? Allons, aide-moi donc. » Elle me montra un petit pied adorable, un pied de statue. Je me mis à rire et l'aidai à mettre un bas, tandis qu'elle restait au lit et continuait à bavarder. « Eh bien, que feras-tu si je t'emmène ? D'abord, je veux 50 000 francs. Tu me les donneras à Francfort. Nous allons à Paris. Là, nous vivrons ensemble, et je te ferai voir des étoiles en plein jour. Tu verras des femmes telles que tu n'en as encore jamais vues. Écoute. Attends, je te donne 50 000 francs, soit... « Mais alors, que me restera-t-il »« 150 000. De plus, je reste avec toi. Un mois, deux mois, je ne sais combien de mois. Nous dépenserons pendant ces deux mois les 150 000 francs, cela va sans dire. Tu vois, je suis bon enfant, et je t'avertis d'avance. Tu verras des étoiles. »« Comment ? Nous dépenserons tout en deux mois ? Ça t'effraie ? « Ah, oh, vil esclave, ne sais-tu donc pas qu'un mois de cette vie vaut mieux que toute ton existence ? Un mois, et après le déluge ? Mais tu ne peux comprendre. Va-t'en, tu ne vaux pas ce que je t'offre. Aïe, que fais-tu ?» Je chaussai son second pied, et ne pouvant plus y tenir, je l'embrassai. Elle le retira prestement et m'en donna un coup en pleine figure. Là-dessus, elle me mit à la porte. « Eh bien, mon Uchitel, je t'attends, si tu veux. Dans un quart d'heure, je pars !» me cria-t-elle comme je m'en allais. En rentrant chez moi, je me sentais comme étourdi. Était-ce ma faute si Paulina m'avait jeté mes billets de banque à la figure et m'avait préféré M. Ashley ? Quelques-uns des billets traînaient encore à terre. Je les ramassais. À ce moment, la porte s'ouvrit et le majordome lui-même apparut. Naguère, il ne me faisait pas même l'honneur d'un salut. Maintenant, il venait m'offrir l'appartement que le comte V avait occupé et venait de quitter. Je réfléchis quelques instants. « Ma note !» m'écriai-je tout à coup. « Je pars dans 10 minutes. »« À Paris ?»« Soit. À Paris, » pensais-je. « C'est probablement ma destinée. » Un quart d'heure après, nous étions tous trois dans un wagon de famille. Blanche, la veuve Comminges et moi. Blanche riait aux éclats en me regardant. La veuve Comminges l'imitait, mais plus discrètement. j'étais le moins gai des trois. Ma vie se brisait là, en deux parts. Mais j'avais pris, dès la veille, le parti de risquer tout l'avenir sur une carte. Peut-être était-ce cette fortune et cette bonne fortune inattendue qui submergeait ma volonté. Peut-être ne demandais-je pas mieux. Il me semblait que le décor de la comédie de ma vie n'était d'ailleurs changé que pour peu de temps. Dans un mois, je serai de retour. Et alors ? Et alors, un ou deux, monsieur Ashley ? Je me rappelle maintenant encore comme j'étais triste en ce moment. Ah, profondément triste. Et pourtant, je tâchais de rire avec cette petite folle. Mais que veux-tu encore ? Comme tu es bête ! Criait-elle tout en riant. Eh bien oui, oui, nous allons les flamber, les 200 000 francs. Mais tu seras heureux comme un petit roi. Je ferai moi-même le nœud de ta cravate, et je te présenterai à Hortense. Et quand nous aurons tout dépensé, tu reviendras ici te refaire. Que t'ont dit les Juifs ? L'important, c'est d'être courageux, et tu l'es. Tu reviendras à Paris m'apporter de l'argent. Plusieurs fois. Quant à moi, je veux 50 000 francs de rente. Et alors ?
Et le général ? Demandai-je.
Le général ? Il va tous les jours me chercher un bouquet à cette heure-ci, tu le sais bien. Justement, aujourd'hui, je lui en ai demandé un des fleurs les plus rares. Quand il rentrera, il verra que le bel oiseau, comme disait sa babouchka, s'est envolé. Parions qu'il nous suivra ? Et j'en serai bien aise. Il me servira à Paris, pendant qu'ici sa note sera soldée par monsieur Ashley.
Et voilà comment je partis pour Paris. Chapitre 16. Que dire de Paris ? Ce fut comme un délire. Je n'y vécus que 3 semaines, durant lesquelles je dépensais mes 100 000 francs. Les autres 100 000, je les avais donnés à Blanche, en espèces sonnantes. 50 000 à Francfort et 50 000, 3 jours après, à Paris.
« Et les 100 000 francs qui te restent, tu les mangeras avec moi, mon Uchitel !»
Elle m'appelait toujours son Uchitel. Il est difficile de s'imaginer une âme plus vénale et plus avare que celle de cette fille. Pour son propre argent, certes, elle en était peu prodigue. Quant à mes 100 000 francs, elle me déclara catégoriquement, un beau jour, qu'elle en avait besoin pour son installation à Paris. « De cette façon, dit-elle, je serai convenablement pourvue une fois pour toutes, et personne ne pourra plus entraver mes projets. » Du reste, c'était elle qui tenait la caisse, et de ces fameux 100 000 francs, je ne vis guère que l'ombre. Elle ne me laissait jamais garder sur moi plus de 100 francs.
« Pourquoi faire ? » disait-elle. « Pourquoi veux-tu de l'argent dans ta poche ? Tu ne peux rien avoir à en faire. »
Je ne discutais pas. En revanche, elle dépensait cet argent sans compter pour son appartement. Quand nous y entrâmes, elle me dit solennellement « Vois ce que l'on peut faire quand on sait suppléer aux grands moyens par du goût et de l'économie. » Ce goût et cette économie valaient pourtant juste 50 000 francs. Chevaux, voitures, bals, auxquels étaient invités Hortense, Lisette, Cléopâtre, d'assez belles femmes, avaient pris l'autre moitié de mes 100 000 francs. Pendant ces soirées, je jouais le rôle stupide de maître de maison, traitant avec politesse des marchands enrichis et idiots, de petits officiers d'une effronterie et d'une sottise intolérables, des écrivassiers misérables et des journalistes, qui tous, vêtus de fracs à la mode, gantés à la couleur de la saison, me parurent plus fats que nos pétersbourgeois. Et pourtant, ils essayèrent même une fois de s'amuser de moi, mais je leur faussai compagnie et en fus quitte pour aller faire un somme dans une chambre vide. Tout cela m'écœurait.
« C'est un Uchitel, disait Blanche. « Il a gagné 200 000 francs, et sans moi, il n'aurait pas su les dépenser. Dans quelques jours, il redeviendra Uchitel. Connaissez-vous une place qui lui convienne? Il faut faire quelque chose pour lui. »
Je buvais souvent du champagne, me sentant horriblement triste. Je vivais dans le plus bourgeois des mondes, où chaque sou était compté et pesé. Blanche me détestait durant les 15 premiers jours. Je m'en aperçus. Il est vrai qu'elle m'habillait en dandy et nouait elle-même ma cravate. Mais entre quatre murs, elle ne me cachait pas son mépris. Je ne m'en souciais point. Ennuyée et morne, j'allais tous les jours au château des fleurs, où je m'enivrais régulièrement chaque soir et apprenais le cancan, qu'on danse très mal, soit dit en passant. J'y acquis un certain talent qui me valut de la célébrité. Enfin, Blanche me comprit. Elle s'était imaginée que j'allais la suivre avec un crayon et du papier, pour noter combien elle dépensait, combien elle volait, et combien elle dépenserait ou volerait encore. Elle préparait des répliques pour chaque observation qu'elle attendait de moi, et comme je ne lui en faisais aucune, elle répliquait d'avance, parfois très violemment. Puis, voyant que je restais toujours silencieux, étendu sur la chaise longue et les yeux au plafond, elle fut profondément étonnée. Alors, cherchant l'explication de mon indifférence, elle l'attribua à la bêtise naturelle d'un uchitel, et elle cessa ses explications, pensant qu'elle chercherait vainement à me faire comprendre des choses qui dépassaient mon intelligence. Et elle me quittait, pour revenir 10 minutes après. Ces scènes demi-muettes commencèrent quand elle changea son attelage contre un plus beau qui coûtait 16 000 francs. « Eh bien, Bibi, tu ne te fâches donc pas ?»« Non, tu m'ennuies, » disais-je en appuyant sur chaque syllabe. Mais cela lui parut si curieux qu'elle s'assit auprès de moi. « Vois-tu, ce qui m'a décidé, c'est que c'est une occasion. On peut revendre l'attelage pour 20 000 francs. »
« je te crois, les chevaux sont admirables. Ça te fait une très jolie sortie. Et puis, assez là-dessus. »
« Alors, tu ne te fâches pas ?»«
Et pourquoi me fâcherais-je? Tu fais très bien de te pourvoir des choses qui te sont nécessaires. Tout cela te servira plus tard. Il faut que tu aies l'air de dépenser les rentes d'un million pour pouvoir en gagner le capital. Nos 100 000 francs ne sont que le commencement, une goutte dans la mer. »
Blanche ne s'attendait pas à de tels raisonnements. Elle tombait des nues.
« Comment? C'est toi qui me dis ça? Mais tu as donc de l'esprit, sais-tu, mon garçon? Tu n'es qu'un uchitel, mais tu aurais dû naître prince. Tu ne regrettes donc pas que l'argent ait été si vite dépensé?
Ah, qu'il s'en aille plus vite encore!
Mais sais-tu? Mais dis donc, tu es donc riche? « Sais-tu, tu méprises tout de même trop l'argent. Que feras-tu ensuite, hein ?»«
Après, j'irai à Hambourg, et je gagnerai encore 100 000 francs. »«
Oui, oui, c'est ça, c'est magnifique. Je suis convaincue que tu les gagneras, et que tu les apporteras ici. Dis donc, mais je finirai par t'aimer pour tout de bon. Puisque tu es ainsi, je t'aimerai. Et je te promets de ne pas te faire une seule infidélité. Vois-tu, je ne t'aimais pas jusqu'à présent, parce que je croyais que tu n'étais qu'un uchitel, quelque chose comme un laquais, n'est-ce pas? Et pourtant, je t'ai toujours été fidèle, parce que je suis bonne fille. »
Tu mens. Et Albert, ce petit officier basané, je l'ai bien vu.
Oh, mais tu es...
« Allons, allons, ne mens pas. Crois-tu donc que je me fâche pour si peu? Je m'en moque. Je ne pouvais pas le chasser. Tu le connaissais avant que nous nous fussions vus. Et tu l'aimes. Seulement, ne lui donne pas d'argent, entendu? »
« Alors, tu ne te fâches pas pour cela non plus?
Mais tu es un vrai philosophe, sais-tu? Un vrai philosophe !» s'écria-t-elle toute transportée.
« Eh bien... je t'aimerai. Je t'aimerai, tu verras. Tu seras content. »
Et en effet,
De ce moment, elle s'attacha véritablement à moi, amoureusement, et ainsi se passèrent nos 10 derniers jours. Je ne m'étendrai pas là-dessus, ce serait tout un autre roman que je ne veux pas écrire ici. Je ne songeais plus qu'à en finir le plus vite possible. Nos 100 000 francs durèrent donc un mois, ce qui ne laissa pas que de m'étonner, car Blanche, en ayant dépensé 80 000 pour elle-même, il n'en restait que 20 000 pour la vie. Blanche, qui vers la fin était presque sincère avec moi, du moins sur certaines questions, m'avoua que les dettes qu'elle avait dû faire ne seraient pas à ma charge. « Je n'ai pas voulu te faire payer toutes les notes, » me dit-elle. « J'ai eu pitié de toi. Remarque bien qu'une autre n'aurait pas eu tant de scrupules et que tu serais à cette heure en prison. Tu vois bien que je t'aime et que je suis bonne. Mais que ce maudit mariage va me coûter. » En effet, il y avait un mariage à l'horizon. Cela survint à la fin du mois, et je pense que c'est là que passa le reste de mon argent. C'est alors que je donnais formellement ma démission. Voici comment. Une semaine après notre installation à Paris, le général arriva. Il se présenta aussitôt chez Blanche et n'en sortit plus guère, quoiqu'il eût quelque part un petit appartement. Blanche l'accueillit avec joie, riant et criant, et se jeta même à son cou. Elle ne le lâcha plus. Il la suivait partout, au bois, au boulevard, au théâtre, chez ses amis. C'était un emploi que le général pouvait encore tenir. Il était présentable, convenable, d'une taille au-dessus de la moyenne, avec des favoris teints et ses grandes moustaches de cuirassier. D'excellentes manières, d'ailleurs. Il portait très congrûment le frac et exhibait toutes ses décorations. Enfin, un tel cavalier était très bon à montrer au boulevard, très bon et très recommandable. Ce pauvre homme ne se tenait pas de joie, car il ne comptait guère sur un tel accueil. Il était dans un perpétuel transport de félicité fébrile que je me gardais bien de troubler. Notre départ de Roultenbourg l'avait laissé comme fou. On l'avait condamné à un traitement rigoureux. Mais un beau jour, il s'échappa. Servir de laquais à Blanche était pour lui le seul traitement efficace. Toutefois, les symptômes de son mal persistèrent encore longtemps après. Je pus m'en apercevoir durant les longues heures que je passais avec lui quand Blanche disparaissait pour tout un jour. On l'eût retrouvé chez Albert. Il jetait autour de lui d'étranges regards, comme s'il cherchait quelque chose. Mais, n'apercevant rien, il perdait le souvenir de ce qu'il désirait et tombait en torpeur jusqu'au moment où Blanche, gaie, vive, vêtue à miracle, apparaissait, après s'être annoncée par un frais éclat de rire. Elle courait à lui, le secouait et même l'embrassait. Cela, toutefois, rarement. Elle plaçait ensuite devant moi la cause du bonhomme. Elle était même, je vous jure, très éloquente. Elle me rappelait que c'était pour moi qu'elle avait quitté le général, qu'elle était depuis longtemps sa fiancée, qu'elle s'était engagée à lui par serment, qu'il avait abandonné sa famille pour elle, qu'enfin j'étais son ancien serviteur, que je ne devais pas l'oublier, que je devais avoir honte. Je gardais le silence, je me mettais à rire, et tout finit par là. C'est-à-dire qu'elle me crut d'abord sot. Puis elle s'arrêta à la pensée que j'étais bon et d'humeur très coulante. En un mot, je sus mériter la bienveillance de cette respectable fille. Une bonne fille, d'ailleurs, en vérité, à un certain point de vue. Je l'avais d'abord mal comprise. « Tu es un homme intelligent et bon, » me disait-elle vers la fin. « Et je regrette seulement que tu sois si sot. Tu n'auras jamais rien. Un vrai russe, quoi. Un kalmouk. » Elle me chargea plusieurs fois de promener le général, à peu près comme on l'ordonne à un laquais en livrée. Je menai donc le bonhomme au théâtre, au bal Mabille, au restaurant. Blanche me donnait pour cela de l'argent. Pourtant, le général n'en manquait pas et aimait fort à étaler son portefeuille devant les gens. Peu s'en fallut, un jour, que je ne dusse employer la force pour l'empêcher d'acheter une broche de 700 francs qu'il avait vue au Palais Royal et qu'il voulait, coûte que coûte, offrir à Blanche. Qu'était-ce pour elle qu'une broche de 700 francs? Le général ne possédait pas plus de 1000 francs, et je ne sais même d'où cet argent lui venait. La générosité de M. Ashley était l'explication la plus plausible, d'autant plus qu'il avait pu payer à l'hôtel la note du général. La conduite du bonhomme à mon égard était de nature à me faire croire qu'il ne soupçonnait même pas mes relations avec Blanche. Je suppose qu'il s'expliquait ma présence chez elle en m'attribuant quelque emploi, comme de secrétaire particulier, voire de domestique. Il me traitait de haut, et même me réprimandait de temps en temps. Un matin, à l'heure du café, il nous fit rire aux larmes, Blanche et moi. Il n'était pas susceptible à son ordinaire, mais ce matin-là, il se fâcha contre moi, je ne sais pas encore pourquoi, et j'imagine qu'il ne le savait pas davantage lui-même. Brusquement, il se mit à proférer des paroles incohérentes, me traitant de gamin, disant qu'il m'apprendrait à vivre, etc. Blanche riait à se tordre. Enfin, on réussit à le calmer et on l'emmena se promener. Depuis quelque temps, je le voyais triste et j'avais le sentiment que, même quand Blanche était là, quelque chose ou quelqu'un lui manquait. Des mots lui échappaient où revenait le nom de sa femme. J'essayais alors de lui parler de ses enfants, mais il se dérobait aussitôt à la conversation. « Les enfants ? Oui, vous avez raison. » Un soir, pourtant, il fut expansif. « Ces malheureux enfants ! » me dit-il tout à coup. « Oui, monsieur, il faut les plaindre. Malheureux enfants ! » répéta-t-il plusieurs fois encore durant la soirée. Un jour, je lui parlai de Paulina. Il devint subitement furieux. « C'est une ingrate ! » s'écria-t-il. « Une méchante et une ingrate, la honte de notre famille. S'il y avait des lois, je l'aurais réduite. Oui, oui, je l'aurais soumise. » Quant à De Griers, il ne voulait même pas entendre parler de lui. « Il m'a perdu ! Il m'a volé ! Il m'a égorgé ! Ça a été mon cauchemar pendant 2 années entières. C'était... Oh, ne m'en parlez jamais !» Je m'aperçus qu'une intimité s'établissait entre Blanche et lui. D'ailleurs, elle m'en parla elle-même, 8 jours avant notre séparation. « Il a de la chance ?» me disait-elle. « La babouchka est cette fois-ci réellement malade et va mourir. Monsieur Ashley vient de le lui télégraphier. Il est le seul héritier. N'eût-il pas même cet héritage, je l'épouserai quand même. Il a toujours sa pension. » Il vivra dans une chambre à côté de la mienne et sera tout à fait heureux. Moi, je serai Madame la Générale, je serai reçue dans le grand monde. C'était son rêve. Je deviendrai plus tard une promestchissa russe, j'aurai un château, des moujiks, sans compter mon million. Et s'il devient jaloux, s'il exige Dieu sait quoi, tu comprends ? « Oh non, il n'osera. D'ailleurs, n'aie pas peur. J'ai pris mes précautions. Je l'ai déjà forcé de signer plusieurs billets au nom d'Albert. À la moindre peccadille, je saurai comment le punir. Mais non, il n'osera même pas. Eh bien, épouse-le. » On célébra le mariage sans aucune solennité, en famille, sans bruit. On invita Albert et quelques amis. Hortense et Cléopâtre n'en étaient pas. Le fiancé paraissait très content de lui. Blanche lui noua elle-même sa cravate, le coiffa, le pomada. Et avec son habit de gala et son gilet blanc, il était très comme il faut. « Très comme il faut, il est tout à fait bien !» me déclara Blanche en sortant de la chambre du général, comme si cela l'étonnait elle-même. Je m'intéressais si peu à tous ces détails dont j'étais le spectateur distrait que j'en ai presque perdu le souvenir. Je me rappelle seulement que Blanche ne s'appelait pas du tout de Comminges, que sa mère n'était pas du tout veuve Comminges. Son vrai nom était Duplacé. Pourquoi de Comminges et pas Duplacé? Je l'ignore encore. Quant au général, cette révélation le combla de joie. Et Duplacé lui parut infiniment plus joli que de Comminges. Dans la matinée du jour du mariage, déjà tout habillé, il se promenait devant la cheminée du salon en se répétant « Mademoiselle Blanche Duplacé ». À l'église, à la mairie, chez lui, ce n'était plus du bonheur qui éclatait sur son visage, c'était de l'orgueil. Tous deux semblaient transformés. Blanche avait aussi une dignité toute particulière. « Il faut que je me compose un maintien tout nouveau », me disait-elle très sérieusement. « Mais vois-tu, je ne peux pas encore prononcer correctement mon nom, le nom de mon mari. Zagorianski, Zagorianski, Madame la Générale de Zago, oh, diable de nom russe. Enfin, Madame la Générale a 14 consonnes. Comme c'est agréable, n'est-ce pas ? » Enfin, nous nous séparâmes, et Blanche, cette stupide Blanche, avait presque les larmes aux yeux en me faisant ses adieux. « Tu as été bonne enfant, » me disait-elle en pleurant. « Je te croyais bête, et tu en avais l'air, mais ça te va. » Et en me serrant une dernière fois la main, elle s'écria « Attends !» Elle courut dans son boudoir, et un instant après, elle m'apporta 2 billets de 1 000 francs. Je ne l'aurais pas cru capable de cela. « Ça te servira. Tu es peut-être un très savant utchitel, mais tu es si bête. Je ne veux pas te donner davantage. Tu jouerais. Adieu. Nous serons toujours bons amis. Et si tu gagnes de nouveau, viens chez moi et tu seras heureux. » Il me restait encore 500 francs, une magnifique montre de 1 000 francs, des boutons de chemise en diamant et quelques bijoux. J'aurais pu vivre quelque temps sans souci. Je sais où trouver M. Ashley. Je vais à sa rencontre. Il m'apprendra tout lui-même. Et puis j'irai directement à Hambourg. Peut-être l'année prochaine passerai-je une saison à Roultembourg. Mais on dit qu'il n'est pas bon de courir 2 fois la chance à la même table. Chapitre 17. Voilà 1 an et 6 mois que je n'ai pas touché à ces notes. Aujourd'hui, triste et chagrin, je les rouvre pour me désennuyer. Je les relis, ça et là. Comme j'avais le cœur léger en écrivant les derniers feuillets. Du moins, sinon léger, j'avais le cœur plein d'espoir, de confiance. Voilà 18 mois de passé, et qui me laissent plus misérable qu'un mendiant. Je suis perdu. Mais trêve de morale, il n'est plus temps. Les gens peuvent me mépriser. S'ils savaient combien mieux que je comprends l'horreur de ma situation, ils m'épargneraient leur morale. Que la roue fasse en ma faveur un tour, un seul. Les mêmes moralistes viendront me féliciter. Hé hé, je puis ressusciter demain. Je suis donc allé à Hambourg, mais... puis à Roultembourg, à Spa, à Bad, où j'accompagnais le conseiller Hans en qualité de subalterne. Le pire des gredins, ce conseiller. Subalterne. Valet. J'ai été valet durant 5 mois, aussitôt après ma sortie de prison. Car j'ai été en prison, à Roultembourg, pour dette. Un inconnu m'a racheté. Qui est-ce? Monsieur Ashley? Paulina? Je ne sais. Mais les 200 thalers que je devais se trouvèrent payés et j'étais libre. Que pouvais-je faire? Je me suis engagée chez Hans. C'est un jeune homme frivole, paresseux. Mes talents lui étaient précieux, car je sais parler et écrire 3 langues. J'étais d'abord quelque chose comme secrétaire, à 30 florins par mois. Mais j'ai fini par descendre au grade de laquais. Il n'avait plus les moyens d'entretenir un secrétaire et il réduisait mes appointements. Ne sachant que faire, je dus rester malgré tout. en 7 mois, j'ai amassé chez lui 70 florins. Un soir, à Bade, je lui appris que j'allais le quitter, et le soir même, j'allais à la roulette. Oh, comme mon cœur battait! Non, ce n'était pas l'argent que je désirais. Ce que je voulais, c'était me venger de toutes les humiliations que m'avaient infligées les grandes dames de Bade, et les majordomes, et ce Hinze. Je voulais les voir tous s'agenouiller devant mon succès. Rêve, songe puéril. Qui sait? Peut-être rencontrerai-je Paulina et lui prouverai-je que je suis supérieure à tous ces hasards de ma destinée. Oh, avec quel serrement de cœur j'écoutais les cris des croupiers. 31, père, passe, manque. Avec quelle avidité je regardais la table de jeu, couverte de louis d'or, de Frédéric d'or. Les thalers, les petits monceaux d'or, quand ils s'écroulaient sous le râteau du croupier, brillant comme du feu. Or, ce soir-là, en portant mes 70 florins à la table de jeu, je savais que la date était pour moi importante. J'ai une préférence superstitieuse pour « passe ». Je mis donc 10 florins sur « passe ». Et je les perdis. Il m'en restait 60 en monnaie d'argent. Je jetai mon dévolu sur le zéro et pointai 5 florins. À la 3e mise, le zéro sortit. Je faillis mourir de joie en recevant 175 florins. J'étais moins heureux le fameux soir où j'en gagnais 100 000. Je mis aussitôt 100 florins sur le rouge. Je gagnais. 200 sur le rouge. Je gagnais. Tous les 400 sur le noir. Je gagnais. Tous les 800 sur manque. Je gagnais. Au total, j'avais 1 700 florins en moins de 5 minutes. Oui, à ces moments-là, on oublie tous les insuccès passés. J'avais risqué ma vie. J'avais gagné. J'étais de nouveau un homme. Je louai une chambre. Je m'enfermais. Et jusqu'à 3 heures du matin, je restais debout, occupé à compter mon argent. Je me réveillais homme libre. Je décidai d'aller à Hombourg, où je n'avais jamais été, ni domestique, ni prisonnier. Quelques instants avant de partir, je me rendis à la roulette pour ponter 2 fois seulement, et je perdis 1 500 roubles. Je partis néanmoins, et voilà 2 mois que je suis à Hombourg. Je vis dans la fièvre. Je joue de très petites mises. J'attends quelque événement qui ne vient pas. Je passe des journées entières près de la table de jeu et j'observe. Je joue même en rêvant. Je suis toujours comme engourdi. J'en ai pu juger surtout par l'impression que j'ai produite sur M. Ashley. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Je marchais dans le jardin, calculant qu'il me restait 50 florins et que je ne devais rien à l'hôtel où j'occupais un cabinet. « Je puis donc aller au moins une fois à la roulette, » me disais-je. « Si je gagne, je pourrai continuer le jeu. Si je perds, il faudra m'engager comme domestique ou comme uccitel. » Tout en rêvant à ces ennuis, je traversais la forêt et passais dans la principauté voisine. Il m'arrivait de marcher ainsi 4 heures de suite, et je revenais à Hombourg, harassé et affamé. Tout à coup, j'aperçus M. Ashley qui me faisait signe de venir. Il était assis sur un banc. Je pris place auprès de lui. Il avait l'air préoccupé, ce qui diminua la joie que j'avais de le revoir. « Vous étiez donc ici ? Je pensais bien vous rencontrer, » me dit-il. « Ne vous donnez pas la peine de me raconter votre vie durant ces 18 mois. Je la connais. »« Ah ! Vous espionnez donc vos amis ? Au moins, vous ne les oubliez pas. Ne serait-ce pas vous qui m'auriez libéré de prison à Rultenburg ? Non, oh non, je sais pourtant que vous avez été en prison pour dette. Vous devez donc savoir qui m'a racheté. Non, je ne puis pas dire que je sache qui vous a racheté. C'est étrange, j'ai pourtant peu d'amis parmi les Russes. Et encore, n'est-ce qu'en Russie qu'on voit les orthodoxes se racheter entre eux? Mais ils ne le feraient pas à l'étranger. J'aurais plutôt cru à la fantaisie de quelque original anglais. M. Ashley m'écoutait avec étonnement. Il semblait s'attendre à me trouver plus triste et plus abattu.
« Je ne vous félicite pas d'avoir conservé votre indépendance d'autrefois, »
reprit-il sur un ton désagréable.
« Vous préféreriez me voir plus humble, » dis-je en riant.
Il ne comprit pas d'abord, puis, ayant saisi ma pensée, il sourit.
« Votre observation me plaît. Je reconnais mon ancien ami, si intelligent, si vif et un peu cynique. »
Il n'y a que les Russes pour réunir des qualités aussi contradictoires.
Vous avez raison. L'homme aime toujours avoir son meilleur ami humilié devant lui. Et c'est sur cette humiliation que se fondent les plus solides amitiés. Eh bien, exceptionnellement, je suis enchantée de vous voir si courageux. Dites-moi, ne voulez-vous pas renoncer au jeu ?
Oh, je l'enverrai au diable dès que...
Dès que vous aurez gagné une fortune.
Vous l'avez dit malgré vous, et c'est bien votre sentiment.
Dites-moi encore, vous n'avez rien en tête que le jeu ?
Non, rien.
Il m'examina curieusement. Je n'étais au courant de rien. Je ne lisais pas les journaux et n'ouvrais jamais un livre.
Vous êtes engourdi, remarqua-t-il. Vous vous êtes désintéressé de la vie sociale, des devoirs humains, de vos amitiés, car vous en aviez, et vous avez même abandonné vos souvenirs. Je me rappelle le temps où vous étiez dans toute l'intensité de votre développement vital. Eh bien, je suis sûr que vous avez oublié vos meilleures impressions d'alors. Vos rêves d'aujourd'hui ne vont pas plus loin que rouge et noir, j'en suis sûr.
Assez, monsieur Ashley, assez, je vous en prie. Ne me rappelez pas mes souvenirs.
M'écriai-je avec rage. Sachez que je n'ai rien oublié. J'ai seulement chassé de ma mémoire le passé, jusqu'au moment où ma situation aura changé.
Et alors ?
Alors ?
Alors vous verrez un ressuscité.
Vous serez encore ici dans 10 ans. Je vous offre d'en faire le pari, et si je perds, je vous le paierai ici même, sur ce banc.
Pour vous prouver que je n'ai pas tout oublié, « permettez-moi de vous demander où est maintenant mademoiselle Paulina. Si ce n'est pas vous qui m'avez rachetée, c'est certainement elle. Et voilà longtemps que je suis sans nouvelles à son sujet. »«
Non, je ne crois pas que ce soit elle qui vous ait rachetée. Elle est maintenant en Suisse, et vous me ferez plaisir en cessant de me questionner sur mademoiselle Paulina. »
dit-il d'un ton ferme et légèrement irrité.
« Cela signifie qu'elle vous a blessé aussi !» m'écriai-je en riant malgré moi.
« Mademoiselle Paulina est la plus honnête et la meilleure personne qui soit au monde. Je vous le répète, cessez vos questions. Vous ne l'avez jamais connue. Et son nom prononcé par vous offense tous mes sentiments. »«
Ah ! Vous avez tort. Jugez vous-même. De quoi parlerions-nous si ce n'est d'elle ? Elle est le centre de tous nos souvenirs. »
Je vous demande seulement ce qui concerne, pour ainsi dire, la position extérieure de mademoiselle Paulina, et cela peut se dire en 2 mots.
Soit, à condition que ces 2 mots vous suffiront.
Mademoiselle Paulina a été longtemps malade. Elle n'est pas même encore guérie. Elle a vécu pendant quelque temps avec ma mère et ma sœur dans le nord de l'Angleterre. Il y a 6 mois, la babouchka, vous vous rappelez cette folle, est morte en lui laissant 7 000 francs. Elle voyage maintenant avec la famille de ma sœur, qui est mariée. Son frère et sa sœur sont aussi avantagés par le testament et font leurs études à Londres. Le général est mort il y a 1 mois, à Paris, d'une attaque d'apoplexie. Sa femme le traitait à merveille, mais avait fait passer à son propre nom toute la fortune de la babouchka. Voilà.
Et De Griller, voyage-t-il aussi en Suisse ?
Non, De Griller est je ne sais où. De plus, une fois pour toutes, je vous en préviens, évitez ces allusions et ces rapprochements tout à fait dépourvus de noblesse. Autrement, vous auriez affaire à moi.
Comment ? Malgré nos anciennes relations amicales ?
Oui.
1000 excuses, monsieur Ashley, mais permettez pourtant. Il n'y a là rien d'offensant. je ne fais aucune allusion malséante. D'ailleurs, comparer ensemble une jeune fille russe et un Français est impossible. Si vous ne rappelez pas à dessein le nom de Grillet en même temps que l'autre nom, je vous prie de m'expliquer ce que vous entendez par l'impossibilité de cette comparaison. Pourquoi est-ce précisément d'un Français et d'une jeune fille russe que vous parlez? Vous voyez, vous voilà intéressé. Mais le sujet est trop vaste, monsieur Ashley. La question est plus importante qu'on ne pourrait le croire au premier abord. Un Français, monsieur Ashley, c'est une forme belle, achevée. Vous, en votre qualité d'anglo-saxon, vous pourrez n'en pas convenir. Pas plus que moi en qualité de russe. Par jalousie, peut-être. Mais nos jeunes filles peuvent avoir une autre opinion. Vous pouvez trouver Racine parfumée, alambiquée, et vous ne le lirez même peut-être pas. Je suis peut-être de votre avis. Peut-être le trouverons-nous même ridicule. Il est pourtant charmant, monsieur Ashley, et que nous le voulions ou non, c'est un grand poète. Les Français, que résument les Parisiens, avaient déjà des élégances et des grâces quand nous étions encore des ours. La Révolution a partagé l'héritage de la noblesse au plus grand nombre. Il n'y a pas aujourd'hui si banal petit Français qui n'ait des manières, de la tenue, un langage, et même des pensées comme il faut, sans que ni son esprit ni son cœur y aient aucune part. Il a acquis tout cela par hérédité. Or, il est peut-être par lui-même vil parmi les plus vils. Eh bien, monsieur Ashley, apprenez qu'il n'y a pas au monde d'être plus confiant, plus intelligent et plus naïf qu'une jeune fille russe. De Grillet, se montrant à elle sous son masque, peut la séduire sans aucune peine. Il a la grâce des dehors, et la jeune fille prend ses dehors pour l'âme elle-même, et non pour une enveloppe impersonnelle. Les Anglais, pour la plupart, excusez-moi, c'est la vérité, sont gauches, et les Russes aiment trop la beauté, la grâce libre, pour se passer de ces qualités. Car il faut de l'indépendance morale pour distinguer la valeur du caractère personnel. Nos femmes, et surtout nos jeunes filles, manquent de cette indépendance. Et dites-moi, quelle expérience ont-elles? Mademoiselle Paulina a dû pourtant beaucoup hésiter avant de vous préférer ce gredin de De Grillet. Elle peut être votre amie, vous accorder toute sa confiance, mais le gredin règnera toujours. Elle conservera son amour même par entêtement, par orgueil. Le gredin restera toujours un peu pour elle le marquis plein d'affable élégance, libéral, et que sa demi-ruine paraît d'une grâce de plus. On a pu depuis percer à jour le faux bonhomme. Qu'importe, elle tient à l'ancien De Grillet. Il vit encore pour elle, et elle le regrette d'autant plus qu'il n'a existé que pour elle. Vous possédez une fabrique de sucre, monsieur Ashley? Oui, je fais partie d'une entreprise de raffinerie, Lovell et compagnie. Eh bien, vous voyez, monsieur Ashley, d'un côté un raffineur, de l'autre Apollon du Belvédère. Moi, je ne suis pas même un raffineur. Je suis un joueur à la roulette. J'ai été domestique. Mademoiselle Paulina doit en être informée, car je vois qu'elle a une très bonne police. Vous êtes irrité, me répondit monsieur Ashley avec le plus grand calme. Vos saillies sont sans originalité. J'en conviens, mais mon noble ami, n'est-ce pas précisément ce qu'il y a de plus affreux que ces clichés si vieux, soient encore vrais? Nous n'avons donc, nous autres gens modernes, rien inventé. Voilà des paroles ignobles. Car, sachez, dit monsieur Ashley d'une voix tremblante et les yeux étincelants, sachez donc, ingrat, malheureux, homme perdu que vous êtes, sachez que je suis venu à Hambourg exprès, parce qu'elle m'a chargé de vous voir, de vous entretenir longuement et sincèrement, et prier de lui communiquer vos pensées et vos espérances, et vos souvenirs. Vraiment? Vraiment? M'écriai-je. Des larmes brûlantes coulaient de mes yeux. Je ne pouvais les retenir. Il me semblait que c'était mes premières larmes.
« Oui, malheureux, elle vous aimait, et je puis vous le révéler, car vous êtes un homme perdu. J'aurais beau vous dire qu'elle vous aime encore, vous resterez ici, cependant. Oui, vous êtes perdu. Vous aviez certaines facultés rares, un caractère vif, vous étiez un homme de valeur. Vous auriez pu être utile à votre patrie qui a tant besoin d'hommes. Mais vous resterez ici, votre vie est finie. Je ne vous en fais pas un crime. À mon avis, tous les Russes sont comme vous. Ce n'est pas toujours la roulette qui les perd, mais qu'importe le moyen. Les exceptions sont rares. Vous n'êtes pas le premier à ne pas comprendre la loi du travail. La roulette est le jeu des Russes par excellence. Jusqu'ici, vous étiez honnête. Vous préfériez servir que voler. Mais votre avenir m'épouvante. Assez. Et adieu. Vous avez probablement besoin d'argent. Voilà 10 louis d'or. Allez les jouer. Prenez. Adieu. Prenez donc.
Non, monsieur Ashley. Après tout ce que vous venez de me dire.
Prenez. S'écria-t-il. Je suis convaincu que vous êtes encore honnête. Et je vous fais cette offre comme peut la faire un ami à un véritable ami. Si j'étais sûr que vous renoncerez au jeu et que vous retournerez dans votre patrie, je vous donnerais immédiatement 1000 livres pour le commencement de votre carrière. Mais non, 1000 livres ou 10 louis sont aujourd'hui pour vous la même chose. Vous les perdrez en tout cas. Prenez, et adieu.
Je les prends, à condition que vous me permettrez de vous embrasser avant de vous quitter.
Oh, cela avec plaisir.
Nous nous embrassâmes, et M. Ashley partit.
Non, il a tort. Si j'ai parlé de Paulina et du petit français sans assez de mesure, il en a tout à fait manqué en parlant des Russes. Je ne m'offense pas personnellement de ce qu'il m'a dit. Du reste, tout cela, ce ne sont que des paroles. Des paroles. Il faut agir. Le principal est de courir en Suisse. Demain même. Oh, si je pouvais partir tout de suite, me régénérer, ressusciter. Il faut leur prouver que... Il faut que Paulina le sache. Je puis être encore un homme. Il faut seulement... Aujourd'hui. Il est déjà trop tard. Mais demain... Oh, j'ai le pressentiment. Et il n'en peut être autrement. J'ai 15 louis. Et j'avais commencé avec 15 florins. Si je me conduis avec prudence... Et je ne suis plus un enfant. Il ne se peut. Ah, je ne comprends donc pas moi-même que je suis perdue. Mais qui m'empêche de me sauver? De la raison, de la patience, et je suis sauvée. Je n'ai qu'à tenir bon une fois, et en une heure, je puis changer ma destinée. Il faut avoir du caractère, c'est l'important. Ah oui, j'ai eu du caractère cette fois. J'ai perdu cette fois. Tout ce que je possédais. Je sors de la gare et je retrouve dans mon gousset encore un florin. J'ai donc de quoi dîner, pensais-je. Et je n'avais pas fait 100 pas que je retournais au salon de jeu. Je mis mon florin sur « manque » et vraiment, il y a quelque chose de particulier en ceci. Un homme seul, loin de son pays natal, loin de ses amis, sans savoir s'il mangera aujourd'hui. Risque son dernier florin, le dernier des derniers. J'ai gagné, et 20 minutes après, je sortais avec 170 florins dans ma poche. C'est un fait. Voilà mon dernier florin. Et que serais-je devenu si j'avais manqué de courage? Demain, tout finira.